Le débat africain. Alain Foucault.
Alors que la moyenne d'âge du continent africain est de 19 ans, celle de ses dirigeants s'élève à un peu plus de 63, contre 53 en Europe. En gros, le continent le plus jeune est dirigé par des vieux. Mais le plus remarquable n'est pas seulement l'âge des capitaines, qui comptent de nombreux octogénaires, mais leur longévité. L'Afrique compte pas moins de 7 présidents qui sont aux affaires depuis plus de 30 ans, et environ 6 qui sont là depuis plus de 20 ans. Rien ne semble pourtant les déboulonner. Leurs ministres et leurs députés aussi ont à peu près le même âge. Alors comment expliquer le difficile rajeunissement de la classe politique africaine, notamment dans la sphère francophone? Comment justifier une telle longévité à la tête des États? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au difficile, j'ai presque failli dire, à l'impossible rajeunissement de la classe politique francophone où les ministres de 60 ans sont considérés comme des jeunes du gouvernement. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord en direct de N'Djamena au Tchad, Succès Masra, fondateur et président du parti Les Transformateurs. Bonjour Succès Masra.
Bonjour Alain, bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être là.
Notre second invité est Sedi Kaba, il est en direct de Paris. Il est journaliste nigérien et analyste politique. Bonjour Sedi Kaba.
Bonjour Alain.
Troisième invité de ce plateau, habitué de l'antenne de RFI, est Didier Akwete, président du groupe Afrique Search, cabinet de recrutement leader en Afrique francophone. Bonjour Didier Akwete.
Bonjour Alain Foucault.
Voilà pour notre plateau. Alors, on devait avoir sur ce plateau Carbone Beniwa Beya, activiste pro-démocratie, influenceur et consultant en stratégie politique en République démocratique du Congo, responsable du réseau et déploiement du mouvement citoyen Filimbi, un mouvement non partisan réunissant des organisations de jeunes, milieux associatifs, universités, etc. Mais également des activistes, artistes, entrepreneurs, cadres et autres. On espère qu'on va l'avoir d'ici la fin de l'émission. J'ai envie de commencer en posant la question directement à Sedi Kaba. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer le mal qu'on a à rajeunir la classe politique africaine?
Il y a différents facteurs, Alain, qui peuvent concourir à expliquer cette situation. Les présidents qui sont actuellement au pouvoir, pour la plupart d'entre eux, ont une conception du pouvoir qui les amène à considérer comme une sorte de pouvoir traditionnel qu'ils ne peuvent et qu'ils ne doivent quitter que quand ils décèdent. Il y a cet aspect-là, il y a aussi le fait que, comme souvent, on ne prépare pas la relève. Tant que le chef est vivant, personne ne manifeste la volonté de lui succéder et lui-même ne crée pas des conditions pour que d'autres lui succèdent. Enfin, un troisième élément, de mon point de vue, peut conclure à expliquer cette situation, c'est la conception, c'est souvent qu'ils sont indispensables pour leur pays et que, tant que ce n'est pas eux, personne d'autre ne peut être à la hauteur des espérances de leur peuple. Lorsqu'on met ensemble tous ces facteurs-là, ça crée les conditions justement des présidences à vie auxquelles on assiste aujourd'hui sur notre continent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part même des Africains, une conception qui veut que l'on considère qu'il peut être là pour longtemps, on va dire des réminiscences de la monarchie que nous n'avons pas forcément connues?
Ah oui, je pense qu'il y a cette dimension. En tout cas, pendant très longtemps, les populations ont elles-mêmes considéré que tant que le chef est là et c'est pas nécessaire, comme une sorte, comme on le voit dans la chefferie traditionnelle, où le chef ne remplaçait que quand il décède.
Le chef ne meurt pas, il s'en va.
Oui, si le chef ne meurt pas, si par hasard il est ici une tradition de longévité et qu'il peut être même centenaire, les gens, pendant très longtemps, les populations ont eu tendance à s'accommoder de cette situation et ça a créé un sentiment de... Voilà, on attend que le président décède, il n'y a pas de contestation qui s'installe. Mais heureusement, avec l'évolution de la population africaine aujourd'hui, avec cette tendance, avec les réseaux sociaux, la mondialisation de la conception du pouvoir, je pense qu'il y a une évolution et il y a de plus en plus de la contestation.
Mais on voit de la contestation, mais ça ne change pas grand-chose en réalité. Lorsque l'on regarde ces États, on a encore des dirigeants qui sont là depuis une trentaine d'années et qui ne sont pas prêts de partir, qui seraient bien prêts à briguer un autre mandat si leur santé le leur permettait. Est-ce que ces mouvements-là ont fait bouger quoi que ce soit, Didier Akwete, d'après vous?
Écoutez, Alain, je crois que il y a effectivement une sorte de captation du pouvoir par une élite politique qui pense hériter cela des traditions africaines. Or, dans les traditions africaines, je crois qu'il y a quand même des traditions qui voulaient que les chefs puissent être changés, puissent être contestés à travers des conseils de sages, des conseils de village. Donc, il y avait quand même des traditions démocratiques dans plusieurs de nos royaumes auparavant. et on exilait même certains chefs qui étaient devenus des despotes ou qui ne respectaient pas les règles. Cela étant dit, c'est qu'il y a aussi un décalage entre ce qu'on appelle la modernité du pouvoir politique en Afrique ou du fonctionnement politique en Afrique, et puis cette soi-disant tradition. Nous avons des institutions, nous avons des constitutions, nous avons des règles qui sont édictées, et d'ailleurs qu'on fait voter généralement lors de référendums par les populations, et dans le même temps, quand il faut les pratiquer, il y a un décalage entre la pratique et les textes. Et c'est en ça que les populations aujourd'hui, je pense, ont du mal à reconnaître l'évolution politique de nos pays, et parfois sont obligées de le contester par la rue, par la violence, parce qu'effectivement, ils considèrent que autant on énonce des principes, alternance, démocratie, suffrage universel, et dans le même temps, lorsque le suffrage s'exprime, on ne le respecte pas dans la mise en œuvre. Donc il y a ce décalage, à mon avis, entre les textes et puis la pratique, qui permet probablement aux chefs de profiter un petit peu de ces dysfonctionnements institutionnels. Et puis troisième élément,
rapidement.
Savait-on que le monopole de la violence, le monopole de la justice, le monopole des richesses publiques sera entre les mains de l'élite politique, eh ben, on aura toujours ces situations de ce que vous appelez des longévités politiques qui n'a plus de raison d'être probablement aujourd'hui.
Alors, succès Masra, on entend certains dire que les Africains aiment avoir des vieux à la tête de leur pays parce que ça les rassure, parce qu'ils représentent la sagesse. Vous pensez que c'est l'une des explications de cette longévité?
Mais, cher Alain Foucault, vous venez vous-même de couvrir les 60 ans d'indépendance des pays africains. Et ce qui m'a frappé, c'est que même aux premières heures des indépendances, si vous regardez la moyenne d'âge des gens qui ont dirigé l'Afrique, eh bien, c'était des gens très, très jeunes.
On y découvre d'ailleurs,
dans un article d'ailleurs écrit par vous, par vos équipes sur RFI, intitulé un peu « Ces jeunes qui ont gouverné l'Afrique ». Et on y découvre un Sankara à 33 ans.
Un David Diacco qui n'avait pas 30 ans.
Ouais, absolument. Et John Rawlings que nous venons de perdre, qui avait 32 ans. Et donc, vous regardez dans l'histoire, et même contemporaine, la plupart de ceux qui ont fait maintenant une trentaine d'années, vous les avez cités récemment, de Paul Kagame à 37 ans, en passant par un Idriss Déby à 38 ans, ou bien Nguema à 37 ans, eh bien, vous voyez bien que dans l'histoire de l'Afrique, eh bien, des très jeunes ont pris le pouvoir, en réalité. Et je crois que c'est d'abord l'égoïsme de ces dirigeants qui sont arrivés très jeunes, et qui ne veulent pas partir, y compris en ayant vieilli au pouvoir. Et cet égoïsme s'est assis sur quoi? Ça s'est assis en partie sur la résignation aussi de ces peuples, d'une certaine manière. Et donc je crois que vous êtes orienté solution, l'une des solutions, en tout cas c'est ce que nous autres essayons de faire sur le terrain, c'est d'éduquer aussi, dans une sorte un peu d'école de la transformation collective, d'amener les populations tchadiennes, africaines, à se rendre compte que pour changer ces cours de choses, ils sont en droit d'exiger des dirigeants serviteurs. Didier l'a dit tout à l'heure, même dans les traditions africaines, lorsque vous n'aviez pas un dirigeant serviteur, au sens de celui qui était au service de la société, les conseils des sages, les conseils même des initiés en partie, pouvaient décider de démettre ce dirigeant-là. Donc je crois que les Africains ne souhaitent pas avoir des vieux à leur tête. Les Africains souhaitent avoir des serviteurs à leur tête indépendamment de leur âge. Et chaque jeune est un futur vieux, mais de là à indexer la sagesse, la capacité à résoudre les problèmes sur un âge, c'est comme ceux qui indexent la compétence sur le genre, sur la couleur de peau, sur la religion, etc. Tout ça est ubesque d'une certaine manière. Et si vous regardez, quand on parle de l'Afrique, c'est le dernier point que je voudrais faire, mais vous regardez l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, etc. Tout ça, c'est l'Afrique. Comment se fait-il que dans certains pays, on a instauré des institutions à même de permettre les alternances, etc. Il s'agit donc de bâtir aussi ces indépendances des différents pouvoirs dans nos pays de manière à ce que nous puissions y arriver. Parce que croyez-moi, tous les peuples africains, peu importe leur langue, peu importe leur couleur de peau, etc., comme les peuples du monde, veulent la dignité, veulent les opportunités, veulent le développement, etc. Et donc on ne peut pas se cacher derrière ces traditions africaines
qui masque en réalité un égoïsme de ces chefs d'État.
Alors, on entend beaucoup faire des reproches aux chefs d'État, les accusant de confisquer le pouvoir, les accusant de ne pas vouloir partir à 80 ans, 80, presque 90 ans pour certains, de ne pas vouloir laisser le pouvoir. Mais depuis la nuit des temps, le pouvoir ne se cède pas, il s'arrache. On n'entend pas faire de reproches à vous, les jeunes, vous, les intellectuels, qui peut-être n'avez pas compris qu'on ne va pas vous donner le pouvoir. On n'a pas encore vu donner le pouvoir, Didier Akwete. Est-ce que la faute n'est pas d'abord celle des jeunes même qui ne vont pas à la conquête de ce pouvoir? À l'instant, Succès Masra disait, ceux qui sont arrivés au lendemain des indépendances étaient très très jeunes. Peut-être qu'ils ont été plus audacieux, peut-être qu'ils ont eu plus de chance. Est-ce que vous n'avez pas démissionné? Est-ce que vous n'avez pas attendu qu'on vous donne ça, qu'on vous mâche, que vous receviez ça tout simplement?
Alors peut-être, Alain, je crois qu'il y a une première lecture à faire, c'est que l'élite économique dans la plupart des pays africains, effectivement, est devenue un peu spectatrice de ces évolutions politiques, compte tenu de la violence, en fait, que comporte la vie politique de nos pays. Donc on ne peut pas tellement vouloir à cette élite économique de se résigner un petit peu, même si dans l'absolu, ils ne devraient pas, parce que ils subissent clairement les décisions politiques. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut quand même remarquer que ces dernières années, il y a eu beaucoup de contestations en Afrique de la jeunesse, de la classe économique, de la classe sociale, et on le voit chaque année, le mécontentement populaire, ce qu'on a appelé le printemps arabe était une illustration, ce qu'on a commencé à appeler le printemps subsaharien ou est-africain peut-être les dernières années, montre qu'en réalité, les gens n'ont pas tant démissionné que ça, notamment les jeunes. Et vous voyez, les manifestations qui se succèdent montrent bien qu'il y a une forte volonté de changement, une forte volonté d'implication dans la vie politique des pays, mais peut-être que le modèle traditionnel d'engagement a changé. C'est-à-dire avant, c'était...
Mais il s'agit justement d'engagement politique. Il s'agit d'engagement politique. On a le sentiment, et là, vous allez m'interrompre si je me trompe, que pendant longtemps, les jeunes se sont dit, on leur laisse la politique, on va faire des études, nous, on ne veut pas s'en occuper. Et qu'aujourd'hui, ils le reçoivent un peu comme un boomerang parce qu'ils sont impactés. C'est à ce moment qu'ils commencent à réagir. Sauf qu'il n'y a pas ces leaders-là qui veuillent se mouiller.
Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pas une envie de ne pas faire de la politique, mais l'expression, la réaction violente des politiques qui dissuade un petit peu les jeunes de s'engager. Mais une fois de plus, quand vous regardez les différentes formes d'engagement dans nos sociétés, quand les jeunes descendent dans la rue parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils considèrent que le système éducatif est à genoux, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de vie sociale, comme ils le voient sur Internet dans les autres pays, c'est une forme de contestation. Simplement, ce que je dis, c'est que la forme de contestation ou de mobilisation ne se fait plus dans les partis politiques, dans les formes traditionnelles que nous avons connues. Et c'est ça qu'il faut inventer aujourd'hui, même si c'est vrai, c'est à travers les partis politiques généralement qu'on accède au pouvoir.
Absolument. Et je pense que...
Faut d'autres formes d'organisation pour la jeunesse à travers, par exemple, la société civile au Burkina Faso, au Sénégal, au Congo. C'est une forme d'expression politique. Vous le voyez dans les associations des jeunes, dans les quartiers, dans les villages, etc. Donc ce sont des formes de contestation politique, d'engagement citoyen, mais qui peut-être demanderaient à être canalisées autrement, pour éventuellement aller à la conquête de pouvoirs locaux, de pouvoirs municipaux, d'être dans les instances de décision.
Mais moi, j'ai envie qu'on soit très concret, Didier. Et là, je me tourne vers Sédi Kaba. Est-ce qu'il n'est pas venu le moment pour les intellectuels africains, pour les cadres africains, de faire leur autocritique dans ce manque de rajeunissement, du renouvellement de la classe politique africaine? Est-ce que ce n'est pas eux qui sont d'abord responsables? Je veux bien comprendre la question de la violence dont parle Didier. Mais avant, il y avait déjà de la violence, Sédi Kaba.
Oui, je pense que, Alain, il y a une grande part de vérité dans la problématique que vous posez. Parce que pendant longtemps, il y a eu un souci de carrière chez certains intellectuels. Ils sont venus dans les partis, ils sont venus dans des systèmes et ils ont privilégié leur carrière par rapport à la remise en cause du système. Ils ont intégré l'esprit de cour et chacun a eu envie de rester, de ne pas remettre en cause le système pour pouvoir évoluer. Mais à cette époque-là aussi, il aurait été sans doute plus audacieux de créer une masse critique, de se mettre ensemble quand on partage l'idée pour bousculer le système et l'amener à se changer. Cela, pendant une bonne période, n'a pas été fait. Les gens ont privilégié leur carrière, et l'esprit de cour s'est développé, on n'a pas osé remettre en cause le système, et ça a favorisé justement le maintien au pouvoir d'un certain nombre d'autocrates pendant très longtemps. Mais fort heureusement aujourd'hui, comme a dit Didier, il y a une évolution. Il y a de plus en plus de jeunes qui quittent le système, souvent parce qu'ils ont travaillé. On voit à quoi je fais allusion, en tout cas des gens qui ont participé au système, qui ont pris leur courage à deux mains, qui l'ont quitté, et qui veulent construire.
Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux parce que lorsqu'on en regarde, ceux qui ont poussé certains dirigeants à faire un troisième mandat, c'est souvent ceux que vous appelez des jeunes, et c'est souvent eux qui leur disent « restez au pouvoir, restez au pouvoir ». Un peu comme s'ils étaient convaincus qu'à 50 ans, 55 ans, voire 60, ils sont encore trop jeunes pour faire de la politique.
Restez au pouvoir, nous sommes votre caution jeunesse que nous allons vous accompagner pour faire. Donc il y a effectivement le souci de la carrière qui a souvent pris le pas. Mais je crois que à la décharge de ce jeune-là, moi, je crois qu'il faut interroger aussi la façon dont on fait la politique en Afrique, notamment la nature de nos partis politiques. Les partis politiques sont devenus presque de SARL, qui appartiennent à ceux qui sont au pouvoir, et qui sont ceux qui payent et ceux qui payent comment. Oui. Donc c'est à peu près leur propriété, c'est eux qui excluent, c'est eux qui cooptent. Donc il y a cela aussi qui n'a pas favorisé l'émergence de jeunes, et on le voit notamment à l'occasion des consultations électorales ou dans les organes dirigeants des partis. Les jeunes sont quasiment exclus parce qu'ils n'ont pas le pouvoir censitaire, ils ne peuvent pas apporter de l'argent dont le parti a besoin pour fonctionner. Donc il y a aussi, je pense, si on veut régler cette question, il faut aussi régler le problème de la nature de nos partis politiques et aussi du mode de financement de nos partis.
Parce mais quand on regarde ces jeunes, ils ont fait des études, ils ont vu différents modèles à travers le monde, ils ont un regard sur la planète. On est un peu gêné lorsqu'on dit qu'ils ne peuvent pas ou ils doivent apporter des nouvelles solutions. Est-ce qu'ils ne sont pas ceux qui doivent créer un nouvel environnement, Succès Masra?
Oui, absolument. La problématique que vous posez, c'est un chapelet de responsabilités qu'il faut interroger. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en termes de pistes de solutions. Mais oui, il faut réinventer les choses. Nous avons une intime conviction, c'est à l'école de la transformation collective qu'il nous faut aller. Et la première des libérations, c'est d'abord dans la tête, les peurs, les résignations qui ont été évoquées vis-à-vis des violences, etc. Et pire encore, même quand ces jeunes ont le courage de se présenter devant votre micro, vous avez souvent interrogé le chef de l'État du Tchad aujourd'hui, qui est arrivé lui-même jeune, et qui aujourd'hui, parce qu'il ne veut pas faire face à un jeune qui, à son âge, eh bien, propose plutôt de changer les lois constitutionnelles pour éliminer. Donc le combat est à plusieurs niveaux. Maintenant, là où vous interrogez la responsabilité, oui, nous devons inventer des solutions, y compris dans cette sorte un peu de violence, qui est une violence inouïe. Il faut avoir la résilience, développer les capacités de résilience. Et la meilleure manière, c'est de répartir l'effort sur une plus grande masse de la population. Didier a évoqué les questions d'éducation citoyenne. Oui, je souscris à cela. Et ensuite, il faut encourager aussi les intellectuels qui ne font pas encore le pas tout de suite, peuvent aussi appuyer les autres intellectuels sur le continent africain, créer une sorte un peu d'effet vertueux. Enfin, il y a un niveau aussi de responsabilité qui, là aussi, a besoin que nous ayons de plus en plus des exemples de nouvelles générations qui comprennent les enjeux de la nécessité d'avoir des institutions fortes, d'avoir des dirigeants qui vont servir leur peuple. Là, c'est au niveau de l'Union africaine. Vous voyez, par exemple, la charte de la jeunesse de l'Union africaine demande que dans tous les États qui en sont signataires, dans tous les pays africains, qu'il y ait une obligation d'associer les nouvelles générations à la participation à la vie publique de 15 à 35 ans. Pour le cas d'aujourd'hui, par exemple, vous imaginez...
Vous savez très bien que ce sont des textes qui ne sont pas respectés parce que ceux qui les écrivent n'y pensent pas un seul instant. On va se retrouver juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie des débats africains. Et je souhaiterais que dans cette seconde partie, jeunes, vous qui représentez un peu une jeunesse, même si vous n'êtes plus si jeune que cela, on essaie d'explorer des pistes de changement. Comment faire pour que des jeunes entrent en politique, pour qu'ils ne regardent plus sa part par la fenêtre? Comment faire pour qu'il y ait une nouvelle classe politique en Afrique? On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Au moment des indépendances, leur moyenne d'âge était de 30 ans. 60 ans après, elle est passée à 63 ans. La tendance est à peu de choses près, la même dans les assemblées et les parlements, notamment dans les pays francophones. Comment expliquer ce vieillissement de la classe politique africaine? Comment comprendre que les présidents qui ont entre 50 et 55 ans aujourd'hui soient considérés comme très jeunes? Pourquoi la classe politique africaine, notamment de la sphère francophone, a-t-elle autant de mal à se rajeunir, à se renouveler? La faute aux gérontocrates qui s'accrochent à leur fauteuil ou aux jeunes qui ne s'engagent pas de façon plus franche, plus massive dans la politique? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au difficile rajeunissement de la classe politique africaine. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes et ici à Paris. D'abord en direct de N'Djamena au Tchad, Succès Masra, fondateur et président du Parti Les Transformateurs. Notre second invité est Sedi Kaba, journaliste nigérien et analyste politique. Il est en direct de Paris. Troisième invité de ce plateau, habitué de l'antenne de RFI, Didier Akwete, président du groupe Afrique Search, cabinet de recrutement leader en Afrique francophone. Alors, à 50 ans, quand on arrive aux affaires en Afrique, on dit un jeune président. Personne n'envisage plus qu'il y ait un président de 40 ans en Afrique. Ça n'existe plus alors qu'en 1962, il y avait des présidents qui avaient 30 ans, 28 ans. Ce qui veut dire quand même que, quelque part, on a écarté les jeunes de la politique. Est-ce que ce n'est pas venu du fait que la conception globale était de dire « fais des études, gagne de l'argent, aie une belle famille et tu as réussi ta vie » et on a laissé la politique mais aux voyous en gros. Là, je pose la question à Didier Akwete.
Alors, effectivement, si vous voulez, tout le monde était, enfin les parents, entre guillemets, encourageaient leurs enfants à être bien formés et à réussir leur vie, et on a un peu perdu l'esprit des années d'indépendance, des années de la féanf, où les Africains se mobilisaient
militaires
pour leur société. Alors, probablement, on le voit, parce que nous, par exemple, dans notre métier de recruteur, c'est vrai, on voit ces jeunes cadres, ces jeunes dirigeants d'entreprise qui sont extrêmement concentrés sur leur business et se tiennent un peu à l'écart de la politique et rester un peu dans leur petit confort, ce qui est probablement un
se protègent même de la politique, ils ne veulent même pas en parler, ils ne veulent pas approcher les politiques.
Alors qu'en privé, ils en parlent, mais dans le même temps, vous en avez. C'est-à-dire quand vous allez dans les partis politiques, vous allez dans les gouvernements, dans les présidences, vous avez des jeunes africains bien éduqués, bien formés, qui sont dans les partis politiques et qui sont dans les gouvernements. Alors, quelle est leur participation à la transformation? C'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est surtout ceux qui restent en dehors, comme vous le dites si bien là, qui devraient probablement trouver des formes de participation citoyenne, de participation politique, à l'instar un peu de ce que moi j'appelle les comités citoyens des jeunes, hein, qui doivent s'impliquer à l'échelon local et à l'échelon national pour participer au débat, être force de proposition, ou ce que j'appelle les groupes d'action socio-économiques, qui peuvent être des élites économiques, qui à leur tour sont des forces de proposition, et qui à un moment donné peuvent décider aussi d'aller à la conquête du pouvoir. Mais ce n'est pas que les jeunes ne participent pas. Ceux qui y participent ont un agenda, malheureusement, qui est celui des partis au pouvoir, et j'ai l'impression qu'ils s'y perdent un petit peu à un moment donné, et donc il est important que ceux qui sont en dehors du système politique s'organisent différemment pour être force de proposition, force d'action, et pourquoi pas aller à la conquête du pouvoir, comme Succès l'a fait, et d'ailleurs, il est extrêmement courageux, donc il faut encourager ce genre d'initiative, parce que c'est pas simplement pour contester les pouvoirs en place, ou renverser les pouvoirs en place, mais c'est être force de proposition, force de contribution, de changement, puisqu'il ne peut pas avoir 60% du continent qui a moins de 25 ans, 70% qui a moins de 30 ans, et puis avoir une classe politique qui reste un peu déconnectée de la réalité de ces jeunes. Donc quand on dit participer à la politique, les jeunes, c'est aussi apporter un souffle nouveau, faire la politique comme...
Est-ce qu'il ne faut pas, puisque on se rend compte que pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir beaucoup d'argent parce que les pouvoirs en place sont largement dotés, est-ce qu'il ne faut pas rejoindre ces mouvements-là et se faire leur place à l'intérieur même de ces mouvements, Sedi Kaba?
Oui, je pense que la position de confort, c'est celle de se dire « je me mets de côté, je me tiens à distance » de ce milieu-là, et je réussis personnellement. Il y a une part de risque à prendre parce que c'est l'intérêt général qu'on sert. Il a été bien dit, le cas de Succès qui a renoncé à une carrière internationale pour s'investir en politique.
Ils ne sont pas nombreux dans le cas de Succès.
Hein. C'est ça. Donc il faut encourager les gens à emprunter cette voie, à renoncer à cette position de confort, à s'investir dans les partis, y compris à créer des partis, y compris en prenant des risques de recevoir des coups, des risques de déstabilisation ou des risques de privation de liberté, comme il vient d'être dit. Mais à mon avis, il faut aussi penser à changer
la nature de la pratique politique et la nature des partis politiques en Afrique.
Mais qui doit changer? Qui doit changer?
Il faut par un concours, il faut par une réflexion. Aujourd'hui, Alain, il y a des partis, il y a des pays en Afrique où on a 400 partis politiques. On ne crée pas 400 partis politiques pour faire de la politique. Donc il faut avoir des partis politiques dont la vocation est de servir l'intérêt général, dont la vocation est de porter un projet politique avec un projet de société, un projet de gouvernement, au lieu d'avoir des partis aujourd'hui concrets, simplement pour rallier le président qui vient de gagner, pour lui apporter un soutien, avoir des postes ministériels, des frappantins. Donc il faut changer la nature du cadre politique et il faut changer, de mon point de vue, ce qui est important, le financement, le nerf de la guerre est important. Parce
Absolument.
Que même si des jeunes viennent à l'intérieur du parti, s'ils ne peuvent pas apporter de l'argent, ils ne seront ni dans les structures de décision, ni investis à l'occasion des consultations électorales. Donc, il faut peut-être, dans le cadre du renforcement de la démocratie, penser à un financement public des partis qui empêcherait...
Mais ce n'est pas ceux qui sont aux affaires, vous le savez bien, Zedi Kaba, ce n'est pas ceux qui sont aux affaires qui vont faciliter l'arrivée des autres au pouvoir. Et je reviens à l'idée qui est de dire, le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache en réalité. Succès Mazra, est-ce que dans votre cas, vous avez le sentiment d'être accompagné? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un peu seul? Il manque cette idéologie qui, dans certaines années, permettait aux gens de se retrouver autour des idées.
Alors, nous ne nous sentons pas seuls, curieusement, et je dois le dire en premier, d'abord le peuple qui croit dans les visions que nous portons. Ça, c'est au moins une chose. Il y a quelqu'un qui disait, c'est Gandhi, je pense que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul moyen de convaincre. Et c'est en cela que je voudrais exhorter aussi. Je crois qu'une des solutions, une des clés de solution, c'est tous ceux qui ne sont même pas forcément engagés sur le terrain de façon directe comme nous autres, ils doivent mettre dans leur agenda la nécessité aussi d'appuyer des dynamiques continentales qui vont dans ce sens. Je crois que ceci est très très fondamental. Vous savez, quand vous allez en guerre, il y a des snipers qui doivent déblayer le terrain à 3 km à l'avance. Ensuite, il y a des soldats qui avancent mètre carré après mètre carré. De la même manière, en politique, je crois qu'il y a des gens qui prennent les drapeaux, qui sont sur le terrain, qui sont visibles, qui sont en front office, mais ils ont besoin aussi de ce soutien-là, qui ne doit plus s'enfermer dans des considérations d'un pays, etc. On peut s'appeler Sédic, venir du Niger et appuyer un Mastra venant d'ici avec un Didier qui vient de la Côte d'Ivoire ou une autre voix qui vient du Cameroun. C'est aussi cela le panafricanisme d'un genre nouveau auquel je crois. Ensuite, deuxième élément qui montre qu'il y a quand même une lueur d'espoir, c'est qu'il y a des forces progressistes globalement qui se réunissent. Nous nous sommes réunis par exemple au Niger où avec les autres jeunes leaders africains, nous avons mis sur pied l'inter-africaine progressiste avec pour vocation justement de réunir aussi des forces nouvelles avec des solutions nouvelles. Et parmi ces solutions nouvelles, Alain, vous avez bien fait de le rappeler, ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir qui ont intérêt à ce que les financements, par exemple, puissent être accessibles. Ici au Tchad, on a dû même changer les règles de transfert d'argent, les règles de financement, les règles pour devenir un parti politique et l'âge pour être candidat à la présidence uniquement parce que nous avons lancé des transformateurs avec une dynamique nouvelle qui part de la population avec des propositions, y compris une dynamique de co-financement des acteurs. Donc, c'est vers ces choses-là que nous devons aussi aller en termes de solutions. Et si nous réussissons donc à créer ce que j'appelle un corpus minimum aussi de lobbying, de capacité à influencer au niveau de l'Union africaine. Demain, nous allons pouvoir imposer, par exemple, qu'il n'y ait plus un club de chefs d'État qui se protège mutuellement, que, par exemple, le troisième mandat soit complètement banni de tout le monde, que la limitation et l'alternance deviennent la règle, que chaque électeur soit éligible sur le critère d'âge, etc. Mais pour faire toutes ces choses-là, nous avons besoin d'avoir un minimum d'Africains, de jeunes Africains, qui sont engagés dans la vie publique et qui croient aussi à la chose publique. Parce que oui, malheureusement, il y a des dynamiques carriéristes et c'est très facile d'éteindre sa conscience, d'applaudir des choses qui ne sont pas du tout applaudissables. Donc voilà, nous avons cette espérance et je crois aussi qu'on doit pouvoir porter ses voix pour le cas spécifique, par exemple, de notre pays, le Tchad aujourd'hui, où vous avez un président arrivé à 38 ans et qui veut, malgré que le peuple demande que chaque électeur soit éligible sur le critère d'âge, donc de 18 ans ou au maximum 35 ans pour respecter les règles de l'Union africaine, malgré qu'il soit le chef de l'État choisi par les pères africains pour défendre la jeunesse et malgré que nous ayons un Tchadien à la tête de l'Union africaine, eh bien, ils sont en train de vouloir passer un âge pour éliminer un adversaire politique considéré comme le plus sérieux, voilà, à 40 ans. Alors que tout le monde a demandé, même au forum, de ramener à 35 ans. Vous voyez que ça, c'est une escroquerie politique et nous devons être capables, chacun à son niveau, de dénoncer ce genre de choses.
Mais vous avez entendu dans cette interview à laquelle vous faites allusion qu'il a dit que ça ne dépendait pas de lui. C'était pas lui qui avait décidé de cela. Est-ce que la solution, comme le disait Didier à l'instant, et là je m'adresse à lui-même, n'est pas dans l'organisation même de la société civile? Est-ce que vous pensez que ces différents mouvements peuvent permettre de rajeunir la classe politique africaine, peuvent permettre de faire entrer, de nouvelles têtes dans cette classe politique africaine, Didier? Dommage, on avait quelqu'un qui devait être sur ce plateau de la société civile, Carbone Beniwa Abeya, mais il ne répond pas au téléphone.
Non, résolument, là, si vous voulez, d'abord, je crois que la politique, c'est un bien commun, hein, qu'il faut protéger et que tous les citoyens doivent protéger. Et en ça, je crois beaucoup dans la convergence de ce qu'on appelle les forces vives, hein, pas de manière galvaudée. Dans ces forces vives, vous avez les jeunes, vous avez les cadres, vous avez la société civile. Et il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est extrêmement important que ces forces vives se retrouvent autour d'idéaux communs, comme ça a été le cas lors des indépendances. Mmh. Qui déjà, on peut s'entendre sur des principes, peut-être les principes qu'énonçait Succès tout à l'heure, ou Sédic, et que ces forces vives s'entendent sur ce minimum des dénominateurs communs, je pense que ça peut faire bouger les lignes et faire avancer le débat. Donc, mon principe, c'est qu'il faut qu'on trace une ligne en disant cette ligne, personne ne l'a franchie, parce que c'est ça le bien commun. C'est-à-dire les principes des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, bref, des choses aussi élémentaires qui, en fait, contribuent à forger une nation et à faire régner le bien-être au sein des populations.
Mais ça, c'est des vœux. Mais comment on transforme ces vœux-là rapidement en réalité? C'est ça.
Eh ben, moi, c'est ce que j'appelle des groupes de convergence. C'est-à-dire, c'est très simple. Dans tous les pays, c'est bien que des individus, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse, économique, puissent se retrouver autour de principes, et dans ces groupes-là deviennent des groupes d'action qui font bouger les choses au sein des communautés, au sein des collectivités, au sein des partis politiques, où on sait clairement que ce sont des groupes qui ont clairement défini des principes autour desquels ils avancent. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait plus en quel principe croire.
Tout à fait.
On fait voter des textes, on ne les applique pas. On va devant la justice, on ne dit pas le droit. Donc, nous nageons dans une espèce de brouhaha total concernant les règles de fonctionnement de nos sociétés. Et tant qu'on est dans ce brouhaha et dans cette espèce d'imbroglio, d'incompréhension, on ne peut pas faire bouger les sociétés, les lignes. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on constitue des groupes d'action autour de principes clairs, autour de règles claires, et qui expriment ces principes dans toutes les strates de la société et dans tous les espaces de nos sociétés. Là, je pense qu'on peut arriver à mobiliser plus fortement les jeunes, puisque c'est aussi ça le débat autour de l'engagement des jeunes, l'engagement citoyen. Les jeunes se reconnaîtront beaucoup plus facilement dans ces principes, dans ces groupes, et participeront plus facilement, à mon avis, à la vie politique et à la vie sociale de nos pays.
Alors, au début des années 60, les jeunes avaient un objectif, construire les États. Est-ce que le manque d'objectifs aujourd'hui n'est pas la raison qui fait que les jeunes n'arrivent pas à se réunir autour d'idéaux qui puissent faire qu'ils entrent en politique et qu'ils bousculent les lignes, Sidi Abba?
Non, c'est tout à fait important. Alain, il faut, au début des années 60, il y avait la volonté de construire les États, de parachever la décolonisation. Donc, il y avait des idéaux qui avait été clairement défini et les gens se sont fédérés autour de ces idéaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de principes qui sont clairement définis. Mais comme a dit Succès Massra, on peut définir ces principes-là. Il faut prendre le temps de les définir. Le service de l'intérêt général, arriver en politique pour servir le pays et non pour se servir du pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on définit un certain nombre de principes, la justice indépendante, le respect du bien commun, etc. Et à partir de là, on fédère, comme vient de le dire Didier, et on crée un rapport de force pour imposer le changement.
On s'interroge quand même qu'il y ait ce renouvellement de la classe politique dans les pays anglophones, dans les pays d'expression anglophone en Afrique, et moins souvent dans les pays francophones. C'est dû à quoi et comment y mettre un terme, Succès Massra?
Alors, je dirais un peu que c'est le rapport au rendre compte qui est quelque chose de très 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 important. Dans le système peut-être anglophone, les résultats, la capacité à délivrer sur le terrain, qui est valable à la fois dans le secteur privé et en quelque sorte un peu beaucoup transposé aussi dans le secteur public à travers l'administration publique et donc l'État et la gouvernance à l'échelle de l'État. Donc je crois que pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, en termes des critères, des principes autour desquels tout le monde doit s'entendre, parmi ces principes, là, nous rendre compte. Il doit devenir un réflexe. Nous avons voulu dire qu'il faut que le leadership serviteur, à tous les échelons de la République, devienne le réflexe. C'est-à-dire que du commis de l'État, le moins gradé à la tête de l'État, que nous ayons ce qu'on appelle les contrats de performance et de résultats. Ensuite, un deuxième élément que nous devons aussi transposer, c'est un corpus de valeurs sur lesquelles tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que nous, on a anticipé ça chez les transformateurs, on a proposé ce qu'on appelle les principes colonnes vertébrales. Ces principes colonnes vertébrales, pas très nombreuses, 5-6, autour desquels tout le monde est d'accord. C'est-à-dire le principe de l'alternance, le principe d'élever, par exemple, l'éducation au rang de la première priorité. Nous disons que ça doit être valable à la fois pour notre pays, le Tchad, mais l'éducation, Mandela le disait, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde, donc pour transformer l'Afrique, y compris l'éducation citoyenne. C'est à l'école que nous devons aussi permettre aux futurs citoyens d'être des gens qui comprennent que voler, c'est pas bien, que servir les autres, c'est mieux, que même quand on est très brillant, on doit pouvoir partir, et que si on a tous les pouvoirs entre ses mains, on devient tout de suite un autocrate et un dictateur, et donc il faut la séparation des pouvoirs. Donc vous voyez, nous avons comme ça identifié 7 principes, et donc parmi ces principes...
Mais est-ce qu'avec ça, vous mobilisez les jeunes? Parce que notre débat est autour du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique africaine.
C'est exactement à ça que je voudrais arriver. Si en moins de 2 ans, nous sommes devenus aujourd'hui, je crois, le parti qui a le plus grand nombre de militants enregistrés, nous avons plus de 150 000 personnes enregistrées, et quand vous regardez la situation de notre pays, le Tchad, parmi ces 150 000, 50 000 sont dans les milieux urbains et 100 000 dans les milieux ruraux, c'est-à-dire un tiers et deux tiers. Et
vous voyez, ça, c'est vos chiffres, hein, ça, c'est vos chiffres pour l'instant. Donc, on ne peut pas les prendre pour argent comptant, mais si vous le dites, c'est que peut-être que vous avez des éléments. Or, là, on va terminer l'émission en essayant d'avoir une idée de ce que nous pouvons faire ensemble, de ce que cette jeunesse peut faire pour au moins faire rentrer des jeunes en politique. En deux mots, Cédric, est-ce que les jeunes doivent rejoindre les mouvements existants ou ils doivent créer les leurs?
Les deux voies sont acceptables. Ils peuvent entrer dans les mouvements qui existent déjà à condition d'être un certain nombre, d'avoir une masse critique qui permet d'obtenir la transformation de l'intérieur. Ou si ce n'est pas possible, créer comme ce que Succès a fait, créer un parti avec de nouvelles valeurs à condition de pouvoir créer les conditions pour rallier le maximum de jeunes et imposer une nouvelle façon de faire de la politique, parce que c'est de cela que nous avons besoin, que les jeunes soient porteurs d'une nouvelle façon de faire de la politique. Il ne s'agit pas non plus de faire du rajeunissement pour faire comme ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'en ce moment, on n'aura pas avancé.
Vraiment, en un mot, vous qui êtes aussi un professionnel de la radio, Didier Akwete, est-ce qu'on peut faire ce changement sans que les institutions qui se plaignent régulièrement, les banquiers, les assureurs et autres hommes d'affaires, ils mettent aussi leurs mains à la pâte?
C'est une affaire de tous. Et alors, vous avez raison. Financer ces mouvements, c'est aussi l'engagement de ces institutions, de fondations qui doivent exister, pour financer ce que j'appelle l'action citoyenne. Ce que ces jeunes font, dont on est en train de parler, c'est l'action citoyenne pour le bien commun. Et donc, tout le monde doit participer à ce financement, à former ces jeunes, à donner les moyens à ces jeunes d'exprimer, en fait, leur savoir-faire, d'exprimer leurs idéaux depuis la base jusqu'au plus haut sommet de nos institutions. Et deuxièmement, pour finir, c'est qu'il faut que les institutions fonctionnent. Le problème que nous avons, c'est un dysfonctionnement de nos institutions.
Mais là, c'est un autre débat, et lorsque les dirigeants vous écoutent, ça doit les faire rire un peu, certains dirigeants qui disent il faut que les institutions fonctionnent alors qu'ils les ont verrouillées. On en parlera dans une autre émission, et puis on reviendra sur cette question du rajeunissement de la classe politique africaine, qui est une urgence, puisque lorsqu'on en regarde l'âge des capitaines, on se dit qu'il serait peut-être temps qu'il y ait de nouvelles voies et une nouvelle façon de penser. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir participer à ce débat. À très vite.